Trace de lumière, Christian Malaplate.
Radio FM plus 91 FM Montpellier présente Trace de lumière, une émission réalisée par Christian Malaplate avec Yann à la technique et les mêmes participations de Viviane Neau. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'émotion ou le pouvoir du poète, un hommage au poète Jean Joubert. Au cours de l'émission, nous lirons des poèmes de Jean Joubert, extraits de son recueil « L'alphabet des ombres » paru aux éditions Bruno Doucet en mars 2014.
L'alphabet des ombres s'ouvre sur des textes voués à ces réalités élémentaires que sont le sable ou le galet, avant de plonger dans un clair-obscur qui emprunte à la mythologie, aux contes et aux méandres de la vie intérieure. Sans jamais oublier la grâce du petit jour, le poète témoigne du combat qu'il livre contre les ombres, et s'il scrute la nuit, consenti et redouté, c'est pour lui arracher cette beauté sauvage qui rend plus ardente notre présence au monde.
Et nous écoutons le poème « Hommage à la vie » de Jules Supervielle, chanté par Kaplan.
C'est beau d'avoir élu domicile vivant et de loger le temps dans un cœur continu, et d'avoir vu ses mains se poser sur le monde comme sur une pomme dans un petit jardin, d'avoir aimé la terre, la lune et le soleil comme des familiers qui n'ont pas leur pareil, et d'avoir confié le monde à sa mémoire comme un clair cavalier à sa monture noire, d'avoir donné visage à ses mots femmes-enfants et servi de rivage à des rangs continents, et d'avoir atteint l'âme à petits coups de rame pour ne l'effaroucher d'une brusque approchée. C'est beau d'avoir connu l'ombre sous le feuillage et d'avoir senti l'âge ramper sous le corps nu, accompagner la peine du sang noir dans nos veines et dorer son silence de l'étoile patience, et d'avoir tous ces mots qui bougent dans la tête, de choisir les moins beaux pour leur faire un peu fête, d'avoir senti la vie hâtive et mal aimée, de l'avoir enfermée dans cette poésie, d'avoir senti la vie hâtive et mal aimée, de l'avoir enfermée dans cette poésie.
Paul Valéry, poète et essayiste, est un des auteurs français qui a cherché autant à créer une œuvre qu'à comprendre sa genèse, sa conception, sa réalisation, mais encore son effet sur le lecteur, sa résonance, sa capacité à émouvoir. Dans son propos sur la poésie, il tente de définir l'émotion poétique. Il reconnaît ainsi deux sens au mot poésie. Le premier est de désigner des émotions produites dans des circonstances diverses. Un paysage, un instant, une personne peuvent être poétiques. C'est, en somme, la poésie naturelle, spontanée, immédiate. Le second sens est une étrange industrie, écrit Paul Valéry, dont le but est de reconstituer volontairement et artificiellement l'émotion qui naît de la poésie naturelle. Pour lui, le dessein du poète
est de restituer l'émotion poétique à volonté, en dehors des conditions naturelles où elle se produit spontanément.
Paul Valéry peut alors définir l'émotion poétique comme une tendance à percevoir le monde où les objets et les êtres connus changent de valeur. Ils entrent
dans une relation indéfinissable, mais merveilleusement juste, avec les modes et les lois de notre sensibilité générale.
Voici un poème de Jean Joubert qui s'appelle « L'éveil » Et ensuite, ce poème sera suivi du poème Le Balcon de Charles Baudelaire, chanté par Pierre Juel.
Éveille, éveille-toi, regarde, la nuit s'écarte, se replie, et cet oiseau qui fuit avec un cri funèbre, tu ne peux le nommer, sinon de quelques sigles indéchiffrables. On dirait dans cette incertitude, encore de la lumière, que l'aube hésite, entre douleur et espérance. Il y eut dans le noir d'âpres morsures, des gueules d'ogres et de loups, des méfaits, des fuites, des crimes. Il y eut le vertige au bord du gouffre, un grouillement, là-bas dans l'ombre, de poulpes et de rats. Voici enfin l'inespéré, un regard neuf, comme résurrection, du regard de l'enfance, sur un jardin d'amour, où le bonheur s'ouvrait dans l'innocence de la rose. En cet instant d'éveil et de naissance, je t'ai rejoint, guetteur infatigable et visiteur enfin réconcilié. Nous voici réunis après le long partage, l'un prisonnier des tourbes maléfiques où gisent, embrassés de même mort, le chasseur et le fauve. L'autre, tendu de toute sa pensée vers le sommet de l'impossible tour. Nous avons maintenant même cœur, même visage, et le soleil enfant, dans le berceau des branches, s'arrache rouge des ronciers. Après la nuit des gueules carnivores, des fuites et des râles, il n'y a plus de peur. Le sanglier qui, dans le noir, a labouré le seuil, est retourné dans sa tanière. Le hibou, rassasié, s'endort sur une cime, et le renard s'est enroulé sur son rêve de sang. C'est l'heure du lilas, du lézard, des tourterelles, résurrection du cœur et du regard. Alors, on entre dans le jour, comme le cerf, longtemps traqué, s'avance dans l'eau du fleuve, puis souverain, un instant se retourne. Tandis que grogne au loin et se disloque le jeu des anciens mots, de poussière et de nuit, voici enfin retournement de la parole, comme une terre noire que la charrue partage, que le soc fend et verse, et débourbé, ce sont de jeunes mots, des oubliés qui s'arrachent et luisent dans la grâce du petit jour. Ils sont semences, ardeurs, promesses de moisson. L'œil les caresse, la main déjà les accompagne, et le désir s'ébroue de l'arbre et de sa voix. Désir du vent de feuille en feuille, comme un murmure d'eau féconde. Et c'est encore l'enfant rêvé, l'enfant lointain, si proche désormais, qui surgit et se penche et boit le vent au creux de ses deux paumes. La mère, en robe blanche, le regarde. Une pivoine rouge éclot près de la grange et dans l'allée, le fantôme du chat s'avance à pas de laine.
Des souvenirs, maîtresse des maîtresses, ô toi tous mes plaisirs, ô toi tous mes devoirs, tu te rappelleras la beauté des caresses, la douceur du foyer et le charme des soirs. Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, les soirs illuminés par l'ardeur du charbon, et les soirs au balcon voilés de vapeurs roses, que ton sein m'était doux, que ton cœur sentait bon. Nous avons dit souvent d'impérissables choses, les soirs illuminés par l'ardeur du charbon. Les soleils sont beaux dans les chaudes soirées, que l'espace est profond, que le cœur est puissant. En me penchant vers toi, reine des adorés, je croyais respirer le parfum de ton sang. Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées, la nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison, et mes yeux dans le noir devinaient tes prunelles, et je buvais ton souffle aux douceurs, au poison, et tes pieds s'endormaient dans mes mains fraternelles. La nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison. Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses et revis mon passé blotti dans tes genoux. Car à quoi bon chercher les beautés langoureuses ailleurs quand ton cher corps et quand ton cœur est si doux. Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses, ces serments, ces parfums, ces baisers infinis. Renaîtront-ils d'un gouffre interdit à nos sondes, comme montent au ciel les soleils rajeunis, après s'être lavés au fond des mers profondes. Aux serments, aux parfums, aux baisers infinis.
L'épisode de la descente aux enfers constitue une des sources les plus inépuisables d'inspiration poétique. Dès l'Antiquité, la figure du poète guidé par un amour extrême trouva le courage héroïque de quitter volontairement la vie, non pour mourir à son tour, mais pour chercher à vaincre la mort, offre une force à l'émotion poétique, capable de défier les lois naturelles. Essentiellement, la victoire remportée par Orphée sur les dieux et donc sur le règne de la mort, grâce à la seule force de son génie poétique, procure à l'émotion le pouvoir de changer la volonté des dieux, de transformer le destin. Depuis son voyage dans l'au-delà, Orphée, qui ne parviendra finalement pas à sauver Eurydice, fonde néanmoins la possibilité d'un monde transformé par l'émotion poétique, plus accompli que le monde réel qui entre en concurrence avec lui sans le renier. L'échec même d'Orphée, issu du doute et de l'inquiétude, renforce son aura. Le poète, au contraire du héros, ne conduit pas un combat, mais une épopée du sentiment qui accepte toutes les hypothèses de l'émotion, la félicité comme le désespoir. Les premiers siècles du christianisme s'empareront de la légende d'Orphée jusqu'à en faire un saint dans laquelle ils trouveront l'ébauche de la psychologie d'un dieu humain, temple des émotions, mis en échec par la vie, mais victorieux de la mort. Dans ses Métamorphoses, le poète latin Ovide, en parlant du mythe d'Orphée, fonde la doctrine d'un art de l'émotion, une poétique universelle du sentiment, élaboré pour changer la vie et vaincre le néant. L'amour, la sincérité, la prière traduite par les vers et la lyre du poète émeuvent les dieux, les maîtres du destin des hommes, jusqu'aux larmes. L'émotion ressentie permet d'inverser le cours naturel de l'existence et passer de la mort à la vie. Après Dante et sa Divine Comédie, où l'auteur lui-même entreprend comme Orphée de traverser les enfers, les poètes de la Renaissance versifie sur la mélancolie et les regrets de ne pouvoir connaître le résultat sublime de l'amant d'Eurydice. Voici un poème de Jean Joubert.
Silence. Ce puits, tu le nommes silence. L'eau profonde ne parle ni ne chante, pesante, énigmatique. Elle est tapie dans la ténèbre et repliée sur son orgueil. Pourtant, si tu jettes une pierre, le puits répond d'une lointaine et faible voix, venue d'ailleurs, d'une gorge inconnue. Il renie alors ce nom, silence, qui enserrait nos jours, cernait nos nuits, clouait nos mains. Dans l'âge, toi qui cherches encore la compagnie des mots, éloigne-toi des parages cruels où le silence rôde et tue. Au puits qui s'embrouille, préfère le torrent, où une fille échevelée bondit de pierre en pierre et soudain, sur l'herbe de la rive, s'incline, s'agenouille pour y boire. Éclaire ta charrue, et comme jadis, dans les terres d'enfance, trace ton sillon droit sous le regard complice des étoiles. Le grain semé, sous la pluie et le vent, dans la douleur et l'espérance, donna moisson, épousaille et louange. L'âge venu, toujours la lune veille et te protège. Toi, laboureur des mots, à la lisière de la nuit, entends, dans le lacis des chaînes tutélaires, le chant nocturne, l'éloge de l'oiseau. Ne cherche désormais ni barque, ni rivage, ni rêve d'aventure, mais seulement au creux des monts, un monde clos où le présent roucoule. Les mots lissent leurs ailes, ils s'éprennent du vent qui sur les cimes caracole. Et toi, l'ancêtre, l'immobile, tu leur confies avant l'envol l'empreinte de ta grâce obscure. Qu'ailleurs ils se trouvent, terre d'accueil, oreilles vives, cœur complice, et qu'alors ils t'oublient, tes messagers.
Voici le poème « Vert doré » de Gérard de Nerval, chanté par Patrick Hamel.
Homme libre penseur, te crois-tu seul pensant? Dans ce monde où la vie éclate en toutes choses, les forces que tu tiens, ta liberté dispose. Mais de tous tes conseils, l'univers est absent. Respecte dans la bête un esprit agissant. Chaque flore est une âme à la nature éclose. Un mystère d'amour dans le métal repose. Tout est sensible et tout sur ton être est puissant. Crains dans le mur aveugle un regard qui t'épie. À la matière même un verbe est attaché. Ne la fais pas servir à quelque usage impie. Souvent dans l'être obscur habite un dieu caché. Et comme un œil naissant, couvert par ses paupières, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Libre penseur, te crois-tu seul pensant? Dans ce monde où la vie éclate en toutes choses, les forces que tu tiens, ta liberté dispose. Mais de tous tes conseils, l'univers est absent.
Pétrarque, poète latin du XIVe siècle, consacre une grande partie de son œuvre à l'or, passion amoureuse qui dure au-delà de la mort de l'or. Il y a ce qu'on pourrait appeler la subtilité du cœur, en même temps la profondeur de l'esprit. Cet amant passionné est un penseur, ce poète est un philosophe. Les poètes de la Pléiade, et en particulier Pierre Ronsard ou Joachim du Bellay, ont fait de Pétrarque leur modèle et y épuisent leur volonté de redonner à l'émotion la place première dans l'art poétique. Ronsard, notamment, en nourrit sa poétique lyrique de l'amour, mais il crée également de véritables dogmes en matière de poésie. L'inspiration est un don divin. Le poète est possédé par la fureur poétique. La poésie est avant tout l'expression de l'émotion et de la sensibilité. La Pléiade impose ainsi, pour la poésie, de langue française à qui elle donne ses lettres de noblesse, le registre des émotions, comme fondement d'un art poétique français et met pratiquement fin à l'influence des poètes rhétoriqueurs, partisans depuis le Moyen-Âge d'une poésie savante et de jeux virtuoses du langage. Voici un poème de Jean Joubert, Les Trois Voix, et ça sera suivi ensuite du poème Mignonne, allons voir si la rose de Ronsard, chanté par Jean Olivier.
Les Trois Voix. Qu'est-ce que c'est, cette voix qui monte de la terre? Cette voix que bave, dirait-on, la bouche fêlée de la terre, et qui serait peut-être bruit d'arbre, bruit de vent, ou d'invisibles bêtes. S'il n'y avait soudain comme des bribes de paroles, des mots mâchés, des débris de syllabes, des bruits de gorge, paroles d'homme alors, dirait-on, dans le silence de la terre. Mais ce serait une langue barbare, étrangère à la clarté de la terre, une langue comme une maison déserte où le vent siffle, où la charpente craque, où choient les ombres et les pierres. Et cette voix, ardente et déchirée, que fait-elle à rôder sur une terre de silence? Que cherche-t-elle, balbutiante, à dire avec un pathétique effort? Et n'est-ce pas vers moi la sentinelle, le veilleur qu'elle est tendue, pour me souffler quoi, qui s'étrangle, s'efface, et avalée par la bouche blessée? Et dirait-on boueuse de la terre, boueuse et muette désormais, est-ce qui m'a frôlé cette nuit, cette voix d'homme souterrain peut-être, ou d'arbre, de vent ou de bête, me laisse inconsolée dans le silence des étoiles? Cette autre bouche, humaine, péremptoire, tranchante dans ces palais de glace, bouche bavarde, vite éclatée en mille échos sonores, ne m'a rien dit sur le vertige des étoiles. De ces éclats, je n'attends rien dans la quête où nous sommes d'une clarté. N'y aurait-il alors qu'une autre parole portée par l'eau amie sur la terre où nous sommes et par le vent, le feu et l'alliance de leurs voix? Notre pacte alors, dans la tente où nous sommes, serait au seuil du soir serment de veille et d'amour et d'écoute. Signe menu, ce matin, le chant du merle à l'aube entre les tours. N'y aurait-il alors que cette voix profonde, perçue jadis dans la forêt d'enfance, et le jardin d'amour, et la rivière, et la seule maison vive dans la mémoire, où les femmes tissaient les mots de la légende, voix venue de temps immémoriaux, passant de bouche en bouche, et qui, dans le brouillard, n'ont mêlé Dieu, car tout alors baignaient dans l'absolue beauté de leur présence. Et ils couraient dans les moissons, mangeaient le pain, dormaient sur la paille, tendre et familier, c'est en musique désormais que leur voix et la voix des femmes se prolongent et s'efforcent vers nous, vers l'espérance de nos cœurs. Et c'est alors qu'il faut saisir, aimer, bercer cette parole dans la naissance du poème.
Mignonne, allons voir ici la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil. À point perdu cette vépère, les plis de sa robe pourpre et son teint au vôtre pareil. Las, voyez comme un peu d'espace mignonne là-dessus la place. Las, ses beautés, les séchoirs. Oh, vraiment marâtre et nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Si vous m'en croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Thank you.
Autant la Renaissance fonde la primauté de l'émotion en poésie, autant l'âge classique, le XVIIe siècle, mais aussi à sa suite le XVIIIe siècle, siècle des Lumières, s'éloigne de la poésie intime et personnelle, réceptable de sentiments et de sensibilité. C'est alors l'âge d'or de la poésie dramatique, le règne du théâtre et les exemples les plus bouleversants de l'expression des émotions se trouveront dans les tragédies de Jean Racine, Phèdre, Andromaque ou Bérénice. Et au XIXe siècle, la génération romantique illustre spectaculairement le triomphe de l'émotion. Le chef de file des romantiques, Alphonse de Lamartine, peut écrire que l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. L'individu, déchiré par l'immensité de ce qu'il éprouve, ne peut plus que se tourner vers les dieux. L'émotion devient spirituelle, le poète davantage un interlocuteur du ciel qu'un troubadour au cœur meurtri. Toutes les forces de son esprit tendent désormais vers l'universel, le cosmos et le dialogue avec le destin. Au tournant du siècle vers 1850, Baudelaire, bientôt suivi de Rimbaud, de Verlaine et de Stéphane Mallarmé, marque une évolution profonde du lyrisme. La révolution industrielle, l'échec des mouvements démocratiques, l'expansion urbaine et transformation radicale de la société scellent l'échec du romantisme et de ses espoirs. Les illusions perdues de cette génération conduisent Baudelaire à bouleverser les relations de la poésie et de l'émotion. Celle-ci s'éloigne du cœur et de ses états affectifs pour s'intellectualiser. L'observation et l'analyse l'accompagnent désormais. Des formes stylistiques nouvelles, par exemple poèmes en prose, des thèmes nouveaux, la ville, la misère, le progrès, des théories, l'art pour l'art, le symbolisme, surgissent. Et l'émotion devient une philosophie, un concept. Le lyrisme, une arche sainte de la poésie, s'élevant au-dessus d'une modernité injuste et hostile, bien que fascinante. Voici le poème « Écoutez la chanson bien douce » de Paul Verlaine.
Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse. La voix vous fut connue et chère, mais à présent elle est voilée comme une veuve désolée. Tant comme elle est encore fière, et dans les longs plis de son voile qui palpite aux brises d'automne, caché montre au cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile. Elle dit la voix reconnue que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie rien ne reste, la mort venue. Elle parle aussi de la gloire d'être simple sans plus attendre, et de noces d'or et du tendre bonheur d'une paix sans victoire. Accueillez la voix qui persiste dans son naïf épite à l'âme. Allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste. Elle est en peine et de passage, l'âme qui souffre sans colère. Et comme sa morale est claire, écoutez la chanson bien sage. Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse. Thank you.
Comme le reste de la société, la Première Guerre mondiale marque un bouleversement majeur dans la littérature. L'héritage du XIXe siècle a disparu après la tragédie dans laquelle l'Europe est plongée et avec la mort de millions d'hommes. La paix voit surgir des mouvements nouveaux, comme le dadaïsme, le surréalisme, qui s'emparent de la poésie. La brutalité de la guerre trouve un écho dans le foisonnement de formes nouvelles, destructives des ordres anciens, qui régissaient la beauté et l'expression des émotions. Peut-on encore s'émouvoir après 14-18, la guerre ? Pourtant, des poètes comme Paul Éluard et André Breton poursuivent une inspiration lyrique dans des poèmes d'amour avec lesquels rivalise Louis Aragon. La muse de Louis Aragon et sa femme Elsa Triolet, femme de lettres d'origine russe, il lui consacre son œuvre, renouant avec les formes les plus bouleversantes de la poésie courtoise. Le même Aragon, durant l'occupation allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale, consacre sa verve lyrique à l'exaltation de la liberté et de la résistance, ouvrant une voie longtemps inexplorée de la poésie française, de l'émotion patriotique, d'un chant composé pour le combat, dans lequel le rejoint un autre poète, René Char. La libération, puis le retour à la prospérité économique, qu'on appelle les Trente Glorieuses, paraissent assécher presque totalement le lyrisme français, comme si la Seconde Guerre mondiale en avait été le dernier vers. La poésie flamboyante de Saint-Jean Perse en est la dernière manifestation remarquable et singulière, aux côtés de l'œuvre du Martiniquais Aimé Césaire, chantre de la négritude.
Mais émouvoir par des formes et des objets dont l'art seul fait des forces émouvantes, c'est le dessin le plus ferme et le plus profond que l'artiste puisse concevoir.
C'est ainsi que Paul Valéry fixe le destin du poète. Il détermine la nature exceptionnelle de l'émotion poétique, qui ne vient pas du monde, du réel ou du vécu, mais qui surgissent de leur confrontation avec la création artistique, avec la sensibilité des hommes et leur refus de laisser la vie n'être que ce qu'elle est. Le mot « émotion » dérive du latin « movere », se mouvoir, incluant l'idée d'un mouvement vers l'extérieur. L'un des premiers traités sur les émotions nous vient de René Descartes, dans le traité sur les passions de l'âme. Il identifie les 6 émotions premières, l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse. Toutes les autres émotions résulterait d'une combinaison et d'une variation de l'une des 6 émotions. L'émotion peut se définir également comme une réaction physique ou psychologique à une situation. Les émotions prennent des formes différentes, simples, mixtes, refoulées ou simplement apparentes. Et Blaise Pascal nous dit
« Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. »
Mais le cœur s'épanche et s'exprime particulièrement librement dans le domaine poétique. Ainsi, les émotions sont-elles la cause, le sujet ou le but de la poésie ? Épousent-elles des formes variées et complexes ? Ou appellent-elles un mode de lecture particulier, un pacte émotionnel entre le poète et le lecteur ? Louise Labbé, poétesse de la Renaissance, éprouvait un amour pour Olivier de Magny, ami de Du Bellay. Cet amour malheureux est à l'origine de beaucoup de ses poèmes. Par exemple, le 8e sonnet de son recueil « Élégie et sonnet »« Je vis, je meurs » est le poème le plus célèbre de Louise Labbé. La poétesse y reprend dans un registre lyrique la description de la passion et des sentiments contradictoires. Elle détaille l'état émotionnel dans lequel elle se débat. Et le langage poétique non seulement décrit la nature de ces émotions, mais permet également de définir leur intensité, les comportements associés et les liens avec le monde réel. Voici le poème « Les chevaux de l'amour » de René Guy Cadou, chanté par Marc Robin.
Les chevaux de l'amour me parlent de rencontres qu'ils font en revenant par des chemins déserts. Une femme inconnue les arrête et les baigne la regard douloureux, tout chargé de forêt. Méfie-toi, disent-ils, sa tristesse est la nôtre. Et pour avoir aimé une telle douleur, tu ne marcheras plus, tête nue sous les branches, sans savoir que le poids de la vie est sur toi. Mais je marche et je sais que tes mains me répondent aux femmes dans le clair, prétexte des bourgeons, et que tu n'attends pas que les fibres se soudent pour amoureusement y graver nos prénoms. Tu roules sous tes doigts comme des pommes vertes, de soleil en soleil, les joues grises du temps. Et tu poses sur les yeux fatigués des villages la bonneté d'un long sommeil de bois dormant. Montre tes seins que je vois vivre en pleine neige, la bête des glaciers qui porte sur le front le double anneau du jour et la douceur de n'être qu'une bête aux yeux doux dont on touche le fond. Telle tu m'apparais que mon amour figure, un arbre descendu dans le chaud de l'été, comme une tentation adorable qui dure le temps d'une seconde et d'une éternité. Les chevaux de l'amour me parlent de rencontres qu'ils font en revenant par des chemins déserts.
Isidore Ducasse, dit le comte de Lautréamont, dans ses œuvres « Les chants de Maldoro », qui se présente comme une épopée en prose, est animée par la violence et la révolte. Le poète rebelle emprunte des éléments au romantisme noir et notamment au satanisme. Il traverse une crise religieuse et spirituelle où les valeurs de bien et de mal sont inversées. Son double, Maldoro, est un héros solitaire, sombre et magnifique, capable néanmoins de rire. C'est un être surhumain, archange du mal, qui lutte sous différentes apparences contre le créateur, souvent ridiculisé. La violence des émotions du personnage de Maldoro exprime une forme particulièrement forte du désespoir et de la frénésie romantique. Les formes nées et porteuses d'émotions se confondent avec la prière, l'élégie, l'hymne, la ballade, la complainte, la litanie, le sonnet, la chanson, et bien sûr avec l'éloquence qui engage elle aussi l'affectivité. Le lyrisme exprime la voix du poète qui fait l'expérience de sa condition d'homme. Il se mesure à la recherche toujours renouvelée d'un langage apte à traduire l'intensité des émotions. Paul Valéry définit le lyrisme comme le développement d'un cri que la poésie lyrique transformerait en chant. Le cri, par sa soudaineté, garantit au lyrisme sa sincérité et l'authenticité des sentiments exprimés. Il surgit des abîmes de l'homme, dans un élan émotionnel qui échappe à tout contrôle, où se mêlent l'urgence, l'alarme et la nécessité. Le cri nous fait sursauter, nous tient en éveil, car la poésie d'Éric installe avec son lecteur une relation émotionnelle active qui engage le corps. Le corps joue un rôle crucial dans la réception et la transmission du condensé d'émotions que contient le poème. Le lecteur endosse la place du poète et éprouve les émotions qui lui sont décrites. D'une certaine façon, il entre dans le corps de l'autre, va jusqu'à lui, instaure une identification avec le poète et prend le texte comme un monologue intérieur. Se pratique alors une sorte d'amitié ou de voyage intérieur. Voici le poème « Venise » d'Alfred de Musset, chanté par Colombe Frézem.
Dans Venise la rouge, pas un bateau qui bouge, pas un pêcheur dans l'eau, pas un falot. Seul, assis à la grève, le grand lion soulève sur l'horizon serein son pied d'airain. Autour de lui, par groupes, navires et chaloupes, pareils à des hérons couchés en rond, dorment sur l'eau qui fume et croisent dans la brume en léger tourbillon leur pavillon. La lune qui s'efface couvre son front qui passe d'un nuage étoilé demi-voilé. Ainsi la dame abaisse de sainte croix, rabaisse sa cape au large pli sur son surplis. Et les palais antiques, et les graves portiques, et les blancs escaliers des chevaliers, et les ponts et les rues, et les mornes statues, et le golfe mouvant qui tremble au vent. Tout se tait, fort les gardes aux longues hallebardes qui veillent au créneau des arsenaux. Ah, maintenant plus d'une attend au clair de lune quelques jeunes muguets, l'oreille au guet. Pour le bal qu'on prépare, plus d'une qui se pare, met devant son miroir le masque noir. Sur sa couche embaumée, la vanina pâmée presse encore son amant en s'endormant. Et Narcissa la folle, au fond de sa gondole, s'oublie en un festin jusqu'au matin. Et qui, dans l'Italie, n'a son grain de folie, qui ne garde aux amours ses plus beaux jours. Laissons la vieille horloge au palais du vieux doge lui compter de ses nuits les longs ennuis. Comptons plutôt, ma belle, sur ta bouche rebelle, tant de baisers donnés ou pardonnés. Comptons plutôt tes charmes, comptons les douces larmes qu'à nos yeux a coûté la volupté.
Voici quelques lectures de poèmes et présentations de livres de Marie-Jo Tabuy. Depuis son plus jeune âge, Marie-Jo Tabuy se révèle sensible aux mots et à leur sonorité. Dès ses 12 ans, elle fait partie d'une chorale qui la conduira jusqu'au cœur départemental de Haute-Savoie. En 2006, elle devient responsable du Cercle des poètes retrouvés de la Société des auteurs savoyards, dont le but est de promouvoir la poésie, organisation du Printemps des poètes, récital poétique. Elle est présente sur des anthologies de poésie éditées par Flamme Vive, association artistique et littéraire créée en 1953 à Roissy-en-Brie. Elle est également membre de la Société des poètes français à Paris. Et maintenant, je vais vous lire quelques poèmes parus dans son recueil intitulé Refuge, qui a eu le prix Paul Verlaine en 2011 à la Société des poètes français. Gaïa. C'était alors un temps qui n'avait pas de nom. Dominait le chaos d'une ronde naissante, en spirale de feu, source incandescente, errant à l'infini sur d'incertains chaînons. Une orange sanguine, à maturation lente, fleurissait un désert aux heures sans saison. Un parfum d'avenir, à forte exhalaison, se composait au nu pour des âmes absentes. Où suspendre sa mue, figer les plissements d'une peau molle, encore à tant de frottements. Quel est l'antre céleste où s'érige l'histoire? Un songe se consume à l'aube incantatoire d'une planète bleue sous le ciel entrouvert et l'étoile incarnate ensoleille la mer. Fascination. De musique envolée, cette fille exotique, pour ses pas langoureux a déhanché sa savant dans un élan farouche et jeté captivant, glisse sur des tangos aux râles impudiques. Le bandoneon bâille en hautes élastiques, déplissé peu à peu sur un pleur d'instrument. La danseuse s'échine et de saisissement à la plainte se fond, sauvage et erratique. Elle est sombre, indoptée, dessine de ses mains le tampon retenu par son regard lointain, escande les accents des syncopes lascives, d'une courbe de rein, sensuelle et rétive, des mesures de feu, ses rythmes ombrageux nous montrent qu'elle est prise à son terrible jeu. Masque. Je suis ce que je suis, mais savez-vous qui passe? Vous pensez reconnaître, jouant de son loup, Arlequin ou Pierrot, Colombine à l'air doux? Ou bien est-ce qu'un clown à tournure cocasse? Je cache ma figure et vous regarde en face. Derrière mon volure, j'ai beaucoup de bagout. Mais à la vérité, j'ai un peu peur de vous. Je sais que vous aimez les êtres pleins d'audace. Il faut faire des mimes pour plaire et chercher à séduire le monde en quelques pitreries. Et nul ne s'aperçoit de mon cœur en charpie. Rigide est mon sourire en papier à mâcher. Jamais sur mon vernis peut-on voir une larme, car ma joie et ma peine ont leur écran de charme. Soleil intérieur. Qui pourrait se douter que sur nos écritoires une rose fleurit? Des lutins facétieux y vivent en secret comme maîtres des lieux, à son angre sanguine y grattent des grimoires. Dans le conte à dormir de mon livre d'histoire, là, un pétale sec au satin déjà vieux, d'une ultime rose comme larme de feu, laissera de sa trace un parfum dérisoire. Le cœur a ses raisons pour chercher à comprendre, le temps est improbable à qui pourrait entendre fable ou vérité. Nul ne s'y reconnaît. Et passent les saisons, viennent les églantines, leur pourpre suranné, sous de vives épines, absorbe du soleil le rêve qui leur sied.
Thank you.
Et voici maintenant quelques poèmes de son recueil insaisissable. Elle a eu le prix Lucie de la rue Madrus en 2021, qui a été décerné par la Société des poètes français.
Alors on écoute des poèmes de Marie-Jo.
Tabui, voilà. Au jour venant, je veux marcher, chanter, libre, dans le jour enfin transparent, d'une nuit dont les ombres vibrent, vite, m'échapper en courant. Le jeu tremblant de la nature, ardent dès le matin venant, m'invite à courir l'aventure de la vie maintenant. Partir alors échevelé, dans le champ de tous les possibles, où l'heure en clarté ondulée caresse mes pas invisibles. Vivre, fredonner, ébruiter les notes en moi, naturelles, même s'il se peut inventer des mélodies intemporelles. Et puis sentir dans mes cheveux ce vent des contrées inconnues, souffle qui me ferait l'aveu de la vérité retenue. En été, des parfums, d'un arôme suave, sublimant les heures, subtile sensation, sillage velouté, une note de tête, exquisément à fleur, une vibration glisse au large de l'été. À l'instant, je m'arrête et perçois tout entière, par le cœur, mais aussi, il se peut par hasard, des afflux serpentins, effluves éphémères, qui fusent et s'en vont, tout follet, tout musard. Et c'est ainsi que meurt d'une brassée de roses ou de pois de senteur, autant que d'iris blanc, une essence estivale. Et dirais-je que j'ose entretenir en moi ces jardins opulents. J'aimerais distiller, épurer, retenir des envoûtements lourds ou des odeurs légères. Mais tout s'évanouit et n'est que souvenir, telle une vapeur bleue, mousseuse et passagère. Passagère. Près d'un étang, dans la verdure, où je peux trouver du repos, mon esprit serein et dispos s'élève au-dessus des ramures. Ma pensée calme s'y déplie, l'espace y danse avec le temps, mais se déjouant de l'instant, vite les heures se délient. En un vol irisé de bleu, s'en vient la frêle libellule. Elle étend son aile de tulle comme l'on ferait un adieu. Insensible à mes jours comptés, au gré d'une brise légère, elle s'éloigne, l'éphémère innocente d'éternité. En ombre familière, elle chante la nuit avant le rossignol. Ils crissent les grillons au creux de leur sillon. Murmures en bémol, sombre, la forêt bruit. Les lumignons du soir s'allument tremblotant. Six petits points ténus dans un ciel inconnu, dont ils sondent pourtant entrée glacée le noir. L'oiseau de la pénombre rabat sous les étoiles son aile somnambule. Dans son rêve, il module, berceuse vespérale, sa romance de l'ombre. Je l'écoute, immobile, seul et assujetti au terrible mystère d'insomnie familière, heure appesantie où je veille, fragile.
tous les lundis de 11h à 12h, Traces de Lumière, rediffusion le même jour, de 20h à 21h. Vous pouvez écouter des émissions déjà archivées en allant sur le site www.radiofmplus.org. Le prochain rendez-vous de Traces de Lumière sera consacré à Joseph Roussel, le grand mangeur d'aube, D'AUBE. Bonne semaine à toutes et à tous.